l'envie et le sentiment de liberté, sans comme la joie pareil à un fleuve, rien n'arrête définitivement son cours. Je vous propose de retrouver Jean Azarel qui est né en 1954 dans l'Octobre blond du Saint-Laurent à Montréal, Canada. Il réside dans le Gard, près d'Uzès. Je l'ai croisé une paire de fois, il a une sacrée verve et une sacrée plume. Heureusement que ma fourche n'a pas langué car j'aurais pu prononcer une sacrée contrepétrie. Allez, je vous propose de retrouver Jean Azarel, c'est un poète. Parole de confiné Jean Azarel ce matin.
Alors que s'accumulent les nouvelles les plus odieuses sur les causes de la mort singulière dans la mort de masse, les retards de gel sans les avances masquées, la séduction n'est donc plus de ce monde, la découverte des brutalités discrètes ou plus visibles des gouvernements, que des clowns incultes renouvellent chaque jour leur numéro, que l'interdit a succédé au tout consommation, combien sommes-nous à lire, écrire, écouter, apprendre, retourner l'humus, exercer encore nos cinq sens et la peau à dépens d'humanité et de paysage. Combien sommes-nous, sommes de nos insuffisances sorties du somme éveillé de la vie, encore audible. Élève turbulent, je rédige cette note de traversée du confinement en beauté décachetée, laissant à d'autres le soin d'évoquer ce Covid, Covid n'avait pas imaginé, et afin qu'au vide imposé de l'existence se substitue le temps d'une émission, le plein de petites grâces portées par le mistral fréquent. Chaque jour, pour garder le mollet leste, attestation dérogatoire en poche, une heure durant, je flâne dans le même périmètre restreint et entends compter, mais ma chance est là. Celle de la nature que le printemps galvanise et modifie visuellement davantage à chacune de mes promenades. Petit clone de Valzer dans ce coin de Bretagne fleurie qui m'a accueilli, je suis successivement au long du chemin le monsieur aux camélias, le type aux iris, l'homme aux jacinthes, le mec aux rhododendrons, l'individu aux pommiers, le gars aux myosotis. Je m'arrête, parle aux fleurs, imagine des stratagèmes, cherche le bois mort et la pousse vive, repense à mes amours anciennes, à mes amours loupées, je selfise et je poétise. Du cabinet de curiosité d'Éric Poindron, j'extrais et me repais de la substantifique moelle de quelques excentriques et marginaux lettrés, exhumés avec talent par le maître de séance, objecteur des séances de la facilité, et je vais vous en parler. Entre spicilège et excursus en toute libricité, j'accepte le chaos debout et navigue jusqu'à sa disparition en mer avec le sieur Fabian Avenarius Lloyd, dit Arthur Cravant, immense provocateur, n'est-ce pas Ferré, si désagréable avec André Gide, si malotru avec Marie Laurencin, premier performeur de l'histoire de l'art en 1916 lors de son combat de boxe contre le champion du monde Jack Johnson. Invité par Picabia et Duchamp à donner une conférence sur les artistes indépendants de France et d'Amérique, entré dans la salle ivre et chancelant, avant de taper du poing sur la table et de commencer à se dévêtir, finalement emmené, menotté et traîné par les policiers en criant son indignation. Cramé Cravant, mais en avant toute. Voilà que sur la lancée, je trinque avec Xavier Forneret, l'homme noir blanc de visage. Dramaturge et poète bourguignon du XIXe siècle, impayable rentier propriétaire de vignes à Pernant et Savigny, mais qui dilapida sa fortune en menant une vie de marginal déjanté. Brouillé avec sa mère, protagoniste de piteux procès d'argent et de mœurs. Le plus grand voleur que je connaisse, c'est moi, si vous me lisez, disait-il. Peu amène avec ses conquêtes, personnage paradoxal entre révolte et conformisme, dont le romantisme frénétique hante des œuvres inégales ignorées de son vivant, plus tard réhabilité par les surréalistes. Forneret, auteur de cette impérissable phrase de circonstance, au temps du carnaval, l'homme met sur son masque un visage de carton. Rêvant de Venise, où il fut enterré en 1913, se profile devant mes yeux embrumés la silhouette fantasque de Frédéric Rolf, plus connu sous le nom de plume de Baron Corvo, popularisé en bande dessinée par Corto Maltese. Fervent croyant, mais expulsé par deux fois de collège catholique pour sa trop forte propension aux arts et à la poésie. Grand adepte de la controverse, paranoïaque et querelleur, fumeur invétéré, Ses écrits laissent filtrer son homosexualité dans un style érudit, fleuri, un brin précieux qui culmine dans son roman Adrien VII, où un obscur écrivain est élu pape et développe un programme ambitieux pour remettre le monde sur la bonne voie. Au détour de la Sente, une fois, me heurte par mégarde Francis Jacquemin, le poète belge, dont je retiens derrière l'humour qui est ici l'élégance du désespoir, le rejet du relationnel. Il déclare ne pas pouvoir accepter la moindre parcelle de savoir. Le rejet de toute proposition intellectuelle est instantané, car le savoir est perçu comme un instrument d'oppression et la pensée mène au totalitarisme. Aux antipodes de Mallarmé, Jacquemin recherche l'indispensable dissolution du sens et fait un voyage fictif au pays de l'agonie du verbe. Car toute signification est un risque inutile. Mais il nous livre aussi son attrait pour la contemplation brute de la nature. Je m'émerveille autant d'une cerise que de l'idée de l'être. Les fruits sont des tombeaux de pulpe. Il y a une lueur d'apocalypse dans tout ce qui naît. Une fois de plus, le bon sens est écarté en faveur des graminées. Interrogé sur notre situation actuelle, Jacquemin disait « La création est ce qui fait reculer la peur. Cela suffit-il pour conjurer la terreur ?» En alternance avec un feuilleton, pas de quartier pour le pangolin, une aventure totalement déconfinée, et je dois insister pour écrire déconfiné dans mon message car Facebook veut inlassablement imposer déconfite à la place, des agents Adèle Vaccin et Luc Chloroquine, jaquette d'Hérold Divard, je dessine avec des mots tous les deux jours sur le réseau social des mini-portraits d'écrivaines poétesses, artistes, féministes oubliées et méconnues, droguées, libertaires, le plus souvent bi ou homosexuelles, dont la vie et l'œuvre expérimentent la difficulté d'être pleinement femme ou seulement la femme d'eux, abondamment hier et encore trop aujourd'hui. Même s'il faut admettre, et elles me pardonneront de le dire, que s'adonner aux voluptés dans les bras d'un homme reconnu aura permis à beaucoup d'échapper à une destinée plus sombre, de voyager, d'écrire et raconter parfois une vie qui était déjà un roman. Je vous invoque, mais jamais ne vous révoque, René Vivien, Violette Leduc, Audre Lorde, Judith Gauthier, Mina Loy, Jeanne Dorzal, Emily Dickinson, Catherine Pozzi, mes sœurs. Et vous encore, Lucie de la rue Mardrus, sublime auteur à qui l'on doit pour finir ce si désirable portrait tiré de nos amours secrètes. Une clarté blanche en des habits sombres, des traits durs raillés par une douceur, Dieu bleu de cheveux presque sans couleur, ma garce blonde, des ordres jetés d'une voix de songe, une bouche fraîche au rire rouillé, un regard pervers mais jamais souillé par le mensonge, au rythme dansant des hanches flexibles, un vice natif qui pleure et qui rit, un pudique rêve et dernier grand cri vers l'impossible. Un désir tout prêt pour toutes les belles, ne pouvant finir qu'en se contentant, vérité d'un cœur qui d'être inconstant est seul fidèle. Une coupe froide, en laquelle abonde tout ce vin brûlant d'intime anarchie, ma joie et mon mal, ma mort et ma vie, ma garce blonde.
De mots aux paroles de confinés.
Tombe riche, c'est brillante, coin saillant. Tombe à la pierre usée par les assauts du temps. Les orties. d'improbables enfants à des chansons futiles qui ne durent qu'un printemps. Y aura-t-il quelqu'un pour se pencher sur moi? Quelqu'un pour pleurer et qui regrettera?